bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce que pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
François Alverne. Je suis maraîcher sur la commune de Poussan depuis une vingtaine d'années. J'ai repris une exploitation viticole et petit à petit, je l'ai réorientée vers une production locale avec de la vente directe de produits maraîchers et de fruits à domicile et sur le marché de Poussan. Donc, exclusivement une production locale pour un marché local et une exploitation à taille humaine, une structure familiale.
Quelles sont vos problématiques?
Les problématiques, c'est que l'ambiance n'est pas très optimiste hein, sur la vente directe. Il y a beaucoup de discours, mais en fait, au quotidien, les supermarchés se multiplient, les petites structures de supermarchés se multiplient dans l'environnement. Là, dernièrement, sur la commune de Poussan, il y a un Carrefour Market. Et qu'est-ce qui s'est fait il y a deux ans, à moins de 200 mètres du Carrefour Market, s'est fait un Lidl. Donc dans le discours, on entend les mots de local, de production respectueuse de l'environnement et tout ça, mais les structures qui sont mises en place par les collectivités ne favorisent que des supermarchés et de la vente de produits qui ne sont pas du tout produits localement, mais viennent d'Espagne, d'Italie. Ne favorisent pas du tout les jeunes pour qu'ils s'installent et avec une assurance que leur production sera écoulée par des structures mises en place par les collectivités.
Comment vous faites alors face à ce constat-là?
Ben, face à ce constat, on résiste et puis on essaie de se regrouper à plusieurs pour s'épauler les uns les autres, pour échanger des idées, pour essayer de structurer un petit peu une autre dynamique sur le paysage. Donc c'est pour ça qu'on s'associe avec les éleveurs du coin, on prête du terrain pour que des gens mettent en place des céréales pour pouvoir faire eux aussi des circuits courts. Et comme ça, on a une dynamique un peu qui veut inverser cette tendance qui petit à petit... Pour faire court, explique le réchauffement climatique. Quoi. Production industrielle, production écoulée dans les grandes surfaces, hyper-consommation de tout. Donc on essaie de mettre des produits, une production locale de proximité en se soutenant avec les uns les autres. Guillaume, Jean-Paul qui est là, et puis Thierry qui doit venir.
C'est comme ça, donc vous êtes entré dans ce collectif, alors éleveur, cultivateur et vous donc sur le maraîchage de circuit court.
Oui. Circuit court, oui, exactement.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Oui, je m'appelle Guillaume. Guillaume Chira, je suis donc cultivateur et je travaille une vingtaine d'hectares en bio entre La Vérune et Balaruc, puisque ici on est à Balaruc, on est de l'autre côté de la Vienne.
Vous faites aussi partie donc de ce collectif?
Oui, mais là où on est, c'est une bonne illustration de ce collectif. François est le propriétaire
de cette parcelle.
J'en suis l'exploitant. Et
combien d'hectares? Quelle surface à peu près?
La parcelle, elle fait 1,5. Elle est en deux parcelles, là, en deux bouts. On est sur 1,5 hectare là.
Et en quoi c'est un bon exemple alors?
C'est un bon exemple parce que donc François est le propriétaire, je suis celui qui la travaille, et c'est une luzerne, ça ne vous aura pas échappé, et cette luzerne, elle va à Jean-Paul, qui va me filer un coup de main pour qu'on fasse le foin, et c'est lui qui va bénéficier de cette luzerne pour le troupeau, voilà. Donc c'est une bonne illustration, sachant qu'il y a plein d'autres choses qui nous lient, mais là c'est du concret, on n'est pas en train de faire une usine à gaz, quoi. On s'entraide.
Et d'où est venu ce besoin de s'entraider, justement?
Eh bien, je crois qu'on se retrouve sur ce qu'a dit François juste avant. C'est-à-dire que si vous prêtez l'oreille, nos collègues agriculteurs, qui sont souvent des gens très bien, sur qui on aime bien taper, et nous, on ne leur tape pas dessus, puisqu'on fait le même boulot, c'est qu'ils vous parlent d'économie. Ce sont des entreprises qui doivent être rentables, à faire de la croissance du PIB, etc. Donc, en gros, ces gens qui font de la production primaire, travail pour faire du pognon. On parlera toujours argent, marge, etc. Et François, il a insisté sur le fait que lui, il fait de l'aliment pour essayer de nourrir son territoire à sa juste mesure. Moi, je suis cultivateur. J'ai essayé, je me donne du mal. J'ai investi. J'ai un moulin à la meule de pierre. Je travaille donc mes farines et pour faire du pain, des pâtes. Et puis, on fait un peu de légumineuses. Donc, j'ai un peu de lentilles. Ça reste encore assez modeste, la légumineuse, parce que c'est pas si simple. Mais tout ça pour dire que je fais ça parce que j'ai envie de nourrir mon territoire. Donc, on ne parle pas pognon, on ne parle pas marge, même si on est bien d'accord qu'il faut être rationnel et nous sommes tous dans des entreprises agricoles. On parle nourrir son territoire. Et donc, on a convergé pour ces raisons-là.
Et c'est quoi la difficulté pour nourrir ce territoire, justement ? Est-ce que c'est facile d'avoir, de garder ce discours-là dans le système dans lequel on vit aujourd'hui ?
En fait, il y a plusieurs réponses, c'est-à-dire que donc la réponse est non, c'est vraiment compliqué. Mais il y a plusieurs éléments de réponse de mon point de vue. Il y en a un qui est très agroclimatique. Là, si vous regardez la parcelle sur laquelle on est, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des andins de luzerne ?
Non.
Non, on a l'impression que le champ, il a déjà été ramassé, quoi. C'est ce que j'ai fauché tout à l'heure, ça. Donc ça veut dire, vous voyez qu'il n'y a pas de biomasse. Pourquoi ? J'ai attendu qu'il pleuve, il n'a pas plu, il ne pleuvra pas. Ma luzerne est en train de jaunir, donc je l'ai fauchée, mais il n'y a pas de biomasse. Ça veut dire que là, on consomme du gasoil pour finalement peu de biomasse. Ça, c'est un réel problème qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, on a un vrai changement climatique. Chaque année, on a des surprises. Ça va être trop ou pas assez. Cette année, c'est vraiment pas assez. Donc nourrir son territoire de ce point de vue-là, ouais, c'est compliqué. Après, nourrir son territoire, donc premier élément de réponse, donc d'un point de vue agroclimatique, ça commence à être compliqué. Il y a de moins en moins de parcelles parce qu'il y a de plus en plus de béton et il ne pleut plus. Voilà. La deuxième chose qui, moi, m'inquiète beaucoup, c'est effectivement, on est un peu dans le folklore. C'est-à-dire qu'on pense à nous pour le folklore. Et marché producteur, on en veut de partout, mais on ne veut pas d'agriculteurs. Donc, mine de rien, c'est quand même le pont d'or est quand même fait, de notre point de vue, à la grande distribution et au circuit long classique, pognon, etc. Et nous, on est un peu des marginaux. Donc ça, c'est une autre difficulté. Et la troisième difficulté, c'est un peu la faute des consommateurs. On a la chance d'avoir des consommateurs fidèles sur nos circuits courts, nos marchés, fidèles, contents, etc. Mais vu la structure liée au deuxième point, eh bien, les gens, ils n'ont pas le temps, ils ne viennent pas nous voir, ils ne viennent pas au marché. Et moi, je dirais que c'est leur faute, mais je comprends bien que c'est le discours ambiant, quoi. On a tous des boulots compliqués, on finit tard, il faut aller à la salle de sport, il faut s'occuper des enfants. Voilà, moi, de mon point de vue, on pourrait s'organiser autrement, mais donc c'est une autre difficulté. Donc on surnage un peu là-dedans.
On pourrait s'organiser autrement, c'est-à-dire à titre individuel ou la collectivité ?
Moi, je crois que la réponse, elle est double. C'est qu'effectivement, il faut que les collectivités arrêtent de nous mettre dans le folklore. C'est un fait. Il faut aussi que les gens aient vraiment envie, sentent qu'il y aurait vraiment de l'utilité à venir plus nous acheter nos produits, quoi. Consommer, à revenir sur des produits de base, de la farine. Moi, je vends de la farine, des pâtes sèches, ce serait bien que j'ai plus de clients. Je fais aussi des pseudo-plats préparés avec des viandes de collègues producteurs, avec les légumes de collègues maraîchers. Mais j'en vends vachement, en fait, parce que je remarque qu'il y a quand même beaucoup de gens qui restent sur le mode « c'est facile, c'est vite fait, on y met au four et c'est bon ». Ok, super, mais je sais pas, moi je fais biscuits apéro, j'en ai ramené là, avec de la farine d'orge. On fait nos pâtes brisées, je fais mon pain. Avec le coup de main, c'est rapide, en fait, à faire.
Il faut faire soi-même la transformation, finalement.
Mais voilà, il faudrait se dire, mais en fait, non, ça ne me prend pas tant de temps que ça.
Et ça prend du temps.
Je pense que ça nous aiderait. Ça prend du temps, mais en fait, d'aller à la salle de sport ou de chercher le meilleur prix à l'autre bout de la ville dans n'importe quel drive, ça prend du temps aussi. Voilà. Bon, après, on est... Nous, on est quand même assez déterminés. Et pour finir, tout ça a beaucoup de sens. Donc ça nous aide à tenir et à se donner du mal pour essayer de faire les choses comme il faut. Donc des produits qui ont du goût, des champs qui sont sous le mode de l'agroécologie tel qu'on entend aujourd'hui, etc., etc.
Jean-Paul Bessière, on s'est déjà croisé nous, mais est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs ?
Je suis Jean-Paul Bessière, je suis berger, éleveur, Et donc je fais des agneaux, des broutards plus spécialement. Et dans les broutards, il faut entre 18 et 23 kilos de masse. Et donc c'est pour la vente directe. Et à savoir que pour créer un broutard, il faut entre un an et demi à peu près. Voilà, donc ça c'est abattu directement dans les laboratoires de Centrafrique, abattoir agréé. Et après je fais de la vente directe, mais pour des particuliers, c'est tout, il n'y a pas d'intermédiaire. Et donc pour en revenir à ce que disait Guillaume, donc on essaie de travailler le maximum de champs qui sont mis à notre disposition par des collègues, des voisins, enfin un peu tout le monde. Quoi. Et pour essayer d'arriver carrément du local. Quoi. Voilà. Donc c'est-à-dire tout ce qui est production locale, foin, engrais, bon moi j'ai la garrigue encore. Et si ça continue comme ça, ben, je vais être obligé d'arrêter. Voilà. Parce que bon, maintenant que tout est basé dans le tourisme, que nous on est des bouffons, quoi, je veux dire, on amuse à la galerie, quoi, c'est tout. Quoi. Lui, moi, tout le monde, quoi. Maintenant, il faut passer industriel. Tout est basé sur le pognon, voilà, tout. Il n'y a personne, il n'y a pas de politique, donc c'est-à-dire les politiques, les incompétents politiques, on va dire. Et donc ils nous créent des machins, pâtés, couffés, voilà, on parle, et en fin de compte, concrètement, on ne fait rien. Il n'y a rien qui est fait concrètement. Donc on te dit un truc, voilà, tu vas faire quelque chose, tu prends 160 brebis et tu te démerdes avec 160 brebis. C'est ce que moi on m'a dit depuis tout à l'heure. Donc tu ne peux pas augmenter le troupeau, tu ne peux rien faire. Hein. Donc tu ne peux pas développer, donc tu ne peux pas. Parce que voilà, c'est fait pour amuser la galerie.
C'est quoi, c'est un manque de soutien de la politique
Déjà, on n'a pas, pas de manque, enfin, des manques, c'est incompétent tout cela. Sur la garrigue, moi je préconisais la dernière fois, si on va arriver à faire des trucs effectifs, j'en ai parlé avec les pompiers, j'en ai parlé avec les chasseurs, j'en ai parlé avec tout le monde, je connais tout le monde ici. Et minimum, c'est 500 brebis qu'il faut mettre. Voilà, sur l'ensemble de la garrigue. Les pompiers, quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit, putain Jean-Paul, le jour que tu fais ça, t'es le roi. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que toi, tu vas nous sauver. Imaginez les morts qu'il y a, quand il y a des pompiers, quand il y a des feux.
Je rappelle que vous êtes sur le massif de la Gardiole.
Ouais, je suis toujours sur le massif de la Gardiole. Et voilà, voilà, c'est en face, là, bon, il y a tout ça, quoi, à développer, quoi. Mais bon, les pompiers, ils seraient heureux, quoi. Vous croyez que ça fait plaisir, les pompiers, qui sont 7 ou 8 d'un camion à 35 degrés, d'un camion qui ne peut même pas descendre pour pisser, quoi. Ils font des piquets d'incendie. Vous savez combien ça vaut, piquets d'incendie? Piquets d'incendie, il y a des camions de partout. Il y a un camion tous les 2 km, là, au cas où il y a un feu qui part, les mecs sont obligés d'intervenir de suite. Hein.
On rappelle cette idée que vous aviez donc de mettre 500 brebis, c'est pour débroussailler, en fait,
déjà,
pour éviter les incendies.
Non, ouais, ça débroussaille, deux, ça évite les incendies, trois, ça nourrit un troupeau et ça nourrit des familles. Quoi. Parce que moi, avec 500 brebis, j'embauche du monde. Voilà. Donc on crée des emplois, on crée, on fait. On ne parle pas, on fait, nous. Voilà. Et en plus, c'est concret.
Qu'est-ce que répondent les élus à cette idée?
Les élus, eux, c'est bien, parce qu'avec 50 ou 100 brebis ou 200 brebis, ça anime la galerie, ça fait passer les bobos de Montpellier qui viennent te voir, là. Ils sont contents, ils te prennent une photo avec les moutons, tout ça, ils sont contents, ils font voir le soir qu'ils auraient à se dire, ils se passent les images en boucle, là. Mais bon, ils ne sont pas pour le développement agricole, quoi. Ici, c'est tout basé sur le tourisme, tout. Et ils veulent faire même des villages surpilotis sur les tas de taux, quoi. Donc imagine, le jour où ils font ça, c'est bon, l'ostréiculteur, ils meurent, quoi, tous. Voilà, tout est basé sur le tourisme, l'incompétence totale du développement économique, hein, c'est tout.
Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Je m'appelle Thierry Hercier, je suis essentiellement vigneron sur Saint-Pargoire.
Qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre ce collectif, à le fonder?
Le truc, c'est dans mon coin, bon, il y a le deuxième pilier, dont parlait Jean-Paul, il y a le tourisme, il y a la viticulture. Et il n'y a que la viticulture. Si on prend à peu près 1000 hectares qui doivent être vinifiés sur la coopérative du village, il doit y en avoir 950 qui sont occupés, 950 hectares de terres labourables ou labourées, on va dire. Je ne parle pas des terres qui sont abandonnées en attendant la spéculation immobilière. Et on a 950 qui sont à la vigne. Voilà. Alors, on plante, on replante. Là, actuellement, ils sont en train de dérouler des tuyaux d'irrigation pour la vigne. Sans que les collègues aient la certitude qu'il va y avoir de l'eau dedans. Et après, comme on est sur un vignoble de production de masse et sur du vrac, si on regarde un peu plus loin, il y a les vignerons bordelais, nos collègues bordelais, qui demandent de l'arrachage subventionné. Donc bien sûr, là on met de l'argent public pour des tuyaux où le vigneron met aussi de sa poche, c'est pas sûr qu'il ait de l'eau. Pourquoi? Alors que justement, y a une demande énorme. Il y a 15 000 habitants de plus par an dans l'Hérault. Je pense qu'il y a sur ces 15 000, il y en a quand même un certain pourcentage qui aimerait manger local, mais on peut les faire boire local. Mais après, on n'encourage pas les paysans à peut-être, on ne leur donne pas un vrai accompagnement technique ou économique pour dire bon, là je ne vais pas replanter vigne sur vigne puisqu'il y a une demande de légumes secs, j'en sais rien moi, de tout. Il y a une demande de tout. Donc voilà, on a un peu ce truc-là. Donc moi, personnellement, je me suis un peu diversifié. Je commence à avoir les premières récoltes en huile d'olive. C'était la culture dominante jusqu'au milieu du 19e. Donc bon, on peut faire autre chose dans le coin. J'ai pas accès à l'eau d'irrigation. C'est pas que je le regrette, mais bon, c'est comme ça. Et donc, il y a plein de choses à faire. Y a plein de choses. Sur mon village, il devait y avoir un maraîcher, un éleveur. Un chèvre, c'est tout.
Ça fonctionne, l'huile d'olive ? Je veux dire, ça vous a aidé de
là, sur
de
la
diversifier.
Récolte, j'ai fait deux récoltes. Alors l'année dernière, c'était minable. Il y a deux ans, ça a commencé. Il y a deux ans, ça a fait un petit plus qui n'est pas négligeable. Voilà, qui n'est pas négligeable. Et qui peut peut-être trouver un vrai équilibre dans les années qui viennent. Quoi.
Quand on vous écoute tous les quatre, évidemment, la première chose qui saute aux yeux, aux oreilles, disons, c'est que vous êtes tous les quatre dans des secteurs différents. Mais finalement, c'est un peu les mêmes problématiques, quoi. Enfin, c'est même complètement les mêmes problématiques qui se rejoignent totalement.
Tous pareil. Le développement, il n'est pas pour nous. Le développement est dans le tourisme. Il n'y a que ça qui marche. Mais les tourismes, là, il va falloir les faire manger, quoi. On fait comment ?
Quel est l'intérêt pour vous de vous mettre en collectif ?
Se rapprocher les uns des autres et faire entendre nos revendications, quoi, c'est tout. Mais bon, il faut le faire au niveau régional, quoi. Il faut aller voir les décideurs, comme on en avait parlé la dernière fois.
Et de céder aussi, de céder. Voilà, parce que vous dites qu'on est sur des territoires différents. Il y a deux axes. Il y a un axe où on n'est pas du tout sur des territoires différents, puisque là, c'est la parcelle que j'utilise. Jean-Paul, presque, on voit son troupeau là-haut, sur le coteau.
Je voulais dire des secteurs d'activité.
Ah, sur les secteurs. Mais vu que moi je fonctionne en rotation et François un peu aussi, du coup moi je travaille pour mon moulin et je travaille pour l'éleveur. Donc c'est exactement la même chose. Et quand Thierry parle de diversification, il parle aussi d'essayer très modestement, disons, 2 hectares. Et ces 2 hectares a fait qu'on s'est rapproché, puisque 2 hectares à mettre en céréales et légumineuses, ils comptent bien un peu sur moi pour...
J'ai aucune compétence technique, de la curiosité, mais j'ai aucune compétence technique pour la préparation des champs, puis pour aller jusqu'à la transformation. Il se trouve que là, Guillaume, ouais, il a un outil qui lui permet d'aller de la graine à la graine. Et donc d'arriver à faire du pain. Et puis après, si on est nombreux, et encore, on n'est pas encore assez nombreux, c'est d'arriver à présenter une assiette complète, quoi. On a de l'huile, du vinaigre, de la viande, des légumes. Donc on peut faire des pâtes, oui, des céréales, on peut proposer un repas complet. Symboliquement, il se trouve que là, les quatre qu'on est autour du micro, on peut faire une assiette complète. Voilà, donc ça, et moi, j'ai pas les compétences en élevage. On manque d'élevage dans mon coin. Je peux pas demander à Jean-Paul de venir avec ses bêtes à 30 km. Il faudrait encourager à ce qu'il y en ait un qui s'installe là-haut, quoi, pour pâturer dans les vignes. Donc, on a besoin de partager nos expériences pour justement essayer de faire au mieux, quoi. Et montrer aussi qu'on y arrive, quoi.
Je suis un peu comme ça dans mon agricole.
Un décideur ou une décideuse écoute, c'est quoi vos revendications ? Est-ce qu'on peut les résumer ?
Ça, tu peux résumer.
Pas facile. Est-ce que le collectif porte une revendication spécifique qui pourrait être entendue ?
Développer le projet concret, mais au niveau départemental, quoi, pas que nous. Départemental, local, là on est bien.
Un projet concret, c'est-à-dire ?
Un projet qui stipule tout, le vin, le blé, l'huile d'olive, les légumes, tout.
Une filière locale ?
Une filière complète, locale, quoi, mais directement d'ici, avec les terrains adjacents, avec les terrains que éventuellement la région nous passerait, quoi. Ils ont stocké Interland, ils ont pris Interland, mais ils se rendent compte qu'on ne peut pas le faire, mais on va le faire dans 10 ans, mais bon, jusqu'à ce qu'ils le fassent, les terres, elles peuvent être exploitables, quoi. Tu vois, du laisser-aller complet, comment ça, il y en a plein. Mais là, il faut voir avec les décideurs. Et les décideurs, on les a, il faut les grosses têtes, faut au niveau départemental, quoi. Voilà, c'est tout. Moi, j'ai demandé un rendez-vous avec Ron Delga, on a eu ses collaborateurs, c'est tout, mais elle, on ne l'a pas lu, quoi. Mais si on lui parlerait, éventuellement, je pense qu'elle est assez intelligente quand même pour comprendre que le monde agricole, il commence à souffrir un peu, quoi.
Hein ? Je vais essayer d'avoir justement des décideurs aussi politiques, mais justement, qu'est-ce que... Si j'ai quelqu'un en face de moi, il faut que je sois assez clair aussi sur ce que vous demandez. Ouais, est-ce qu'on peut formuler ça ?
Justement, j'ai pas à formuler, c'est pas évident. Et en fait, ça nous a été... Moi, ça m'a été reproché. C'est-à-dire que j'ai fait venir un jour un pseudo-bailleur de fonds pour un projet de microfilière, puisque quand on fait une assiette, il faut bien qu'il y ait des microfilières qui soient remis, parce que notamment sur la céréale, on la transforme. On ne mange pas du blé dans le champ, on mange du pain. Et ce micro-bailleur de fonds m'a reproché de dire que ma demande n'était pas assez précise, alors qu'en fait, je lui demandais du pognon. Donc c'était précis pour moi, mais c'est pas assez précis. Et c'est un peu l'impression qu'on peut donner, le fait de dire que bon, c'est pas très précis. Donc si on veut être très précis, d'une part, eh ben il faut du pognon. Mais l'autre chose, c'est que on nous opposera qu'il y a plein de choses comme le plan alimentaire territorial. Sur la métropole de Montpellier, il y a FIBANI, filière bas niveau d'intrants, etc. Ce sont des réunions où moi j'ai pu aller par le passé, où mes camarades sont allés. Là, très récemment, ces derniers mois, et on devrait leur opposer la même chose. Ce qu'ils proposent n'est absolument pas précis. Donc ils font des réunions avec des multiples acteurs. Il n'y a à peu près pas de producteurs, parce que les producteurs pensent y perdre leur temps. Et ce qui ressort de ces réunions, de notre point de vue, n'est absolument pas précis. Voilà, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut ajouter.
Après, moi, j'ai envie de dire qu'il faut... Il faut qu'un élu, un élu ou un administratif, hein, que ce soit de la DDTM ou autre, ou un fonctionnaire, il faut qu'il ait du courage. Et le système aujourd'hui, il est bloqué. Au niveau agricole, il est bloqué. La chambre d'agriculture est tenue par la FNSEA, qui est un modèle de production qui n'est pas du tout original. On parle de transition, on parle d'évolution. La FNSEA est un syndicat qui bloque le système, qui le bloque dans une orientation qui existe déjà. Avec les aides de PAC, avec tout ça, c'est un système qui est lourd et il n'y a pas d'innovation possible avec ce système-là. Toutes les institutions aujourd'hui, agricoles par agricoles, étatiques et tout ça, sont bloquées. Et il faut que l'élu... il fonctionne en dehors de ce système-là. Sinon, à mon avis, maintenant, j'ai participé, comme disait Guillaume, aux réunions du plan alimentaire
territorial.
Il n'y a que des gens fonctionnaires ou élus, mais qui sont acteurs de ce système-là. Et ils n'ont aucune innovation. Et eux-mêmes le savent. Quand on discute avec eux, ils savent très bien que ce système est bloqué. Donc c'est réunion plus réunion plus réunion qui n'aboutissent à rien. Et dans ces réunions ne figurent que très rarement des agriculteurs, des éleveurs ou des gens qui sont chargés de produire de l'alimentation. Et à mon avis, il faut que l'élu se sorte de ce système et qu'il aille rencontrer des agriculteurs. C'est des relations humaines, des relations individuelles. Rencontrer un éleveur, rencontrer un céréalier, rencontrer un viticulteur et essayer de voir avec eux ce rôle, nous, qu'on a fait, ce collectif qu'on a créé, il aurait dû être initié par un élu qui a une dynamique de vouloir développer son agriculture. Ça aurait dû être sponsorisé quelque part par l'élu. C'est cette dynamique-là que l'on demande. Ce n'est pas de faire une réunion pour discuter de ceci et de cela. C'est de se retrouver entre nous, de voir qu'un tel, il a 1 ou 2 hectares de libre qu'il peut mettre à disposition d'un céréalier. Le céréalier qui peut transformer et profiter, par exemple, de l'étal que moi je fais pendant l'été, l'étal de vente directe. J'en profite pour écouler un peu de marchandises de Guillaume, des pâtes, de la farine. C'est de profiter de ces et profiter au bon sens du terme de la coopération et des compétences de chacun. Et c'est cet appui-là qu'on demande. Mais cet appui-là, ça n'est pas malheureusement le système actuel qui existe qui ne favorise ça. C'est pour ça que je pense qu'un élu, ce qu'on lui demande, c'est quelque chose de quelque part de très difficile. Il faut qu'il ait le courage de se mettre en dehors de ce système, quitte à se faire des ennemis, hein, parce que c'est pas facile de fonctionner individuellement quand on a un élu de sa propre commune et en plus avec les élus des autres communes à côté, avec le système des agglos et tout ça. Tout le monde regarde au sein de l'agglo ce que fait un élu, donc on a des comptes à rendre avec beaucoup de personnes. Mais je pense que moi, ce que j'ai envie de faire passer, c'est que c'est des élus, si on parle des élus, qu'est-ce qu'on peut leur demander? C'est ça, c'est de se mettre hors système, hein, et de regarder sur son territoire, voir sur le territoire à côté, quels sont les agriculteurs un peu dynamiques et comment est-ce qu'on peut les mettre en lien et comme ça créer une filière, comme dit toujours Guillaume, de mettre un système, un nouveau système en place. Mais ce système-là qui existe aujourd'hui, pour moi, il est bloqué.
Après, on pourrait simplement le demander à certains qui joignent les actes à la parole. Quand il y en a qui disent on va préserver les terres agricoles, oui, alors on préserve je ne sais pas combien de dizaines d'hectares, mais on en réserve une certaine surface à l'urbanisation, à l'artificialisation. Donc déjà, avoir une espèce de cohérence au niveau local, au niveau communal, au niveau intercommunal, sur la préservation des terres agricoles. Quand on laisse construire des terres, en plus celles à plus haut potentiel, quand on voit qu'en fait, dans mon secteur, la Salamane, Clermont-Lérault, c'était pas une plaine irrigable, c'était une plaine irriguée. L'eau y était. C'est la plaine alluviale de l'Hérault, c'était de la vigne. Bon, ben les spéculateurs ont mis un prix de 10 euros le mètre carré à la vente. Bien sûr, super à acheter, pas de souci, 20 hectares artificialisés, avec la bénédiction de la communauté de communes. Le département a dit non, mais il avait le panneau, il a financé le rond-point d'accès à la zone d'activité. Et la chambre, comme disait François, elle a pris une décision à huis clos pour dire sur un bout de papier, oui, on est contre, mais bon, ça s'est fait, 20 hectares en pleine alluviale de l'Hérault irriguée. Donc voilà, préserver et joindre les actes à la parole, préserver les terres. Et d'autant plus, il n'y a pas de mauvaise terre. Après, on ne fait pas la même chose partout. Dans les garrigues, on peut élever, on peut pâturer. Et Jean-Paul, il peut expliquer qu'on peut pâturer sur des tas de cailloux avec des chênes verts, parce qu'il y a de la ressource qu'on ne voit pas. On ne pâture pas qu'en Normandie. Là, ils ont fait une PAC où il faut augmenter la charge, je crois, à l'hectare de bestioles. On est en zone méditerranéenne. Donc, il faut être cohérent. Et on demande juste de la cohérence. Déjà, qu'il soit cohérent, ça serait pas mal. Un petit peu de cohérence, ça serait pas mal. Surtout que c'est puissant, une aglo, un conseil départemental. C'est très puissant, ça peut faire des choses. Un député, ça peut faire des choses. Donc on dit, on protège les terres agricoles existantes. Mais là, comme on disait juste avant, il y a la pression de aller, je sais pas, GGL, Rambier, la pitié du béton, quoi. On a défriché les garrigues pour planter des vignes et on arrache les vignes pour mettre des baraques. Et on ne sait même plus si on aura assez d'eau pour les habitants, alors... Voilà. Donc un peu de cohérence, ça serait pas mal, et préserver la ressource, parce qu'une fois qu'on a bétonné, c'est difficile. Et l'agrivoltaïsme, la dernière saloperie qui a été promue, le mot est peut-être un peu violent, mais agrivoltaïsme, c'est la quintessence de l'hérésie, c'est-à-dire du panneau solaire en plein champ, ça reste de l'artificialisation, même si on a fait une loi disant que c'est vert. Voilà, là c'est grave, quoi. On dit qu'une terre est abandonnée parce qu'elle est en jachère depuis 2 ans, donc maintenant on peut la bétonner sans autre forme de procès. Non, non, là, et là ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Ah, il y a des pressions économiques et politiques, mais ils peuvent le faire. Et comme disait François, il faut beaucoup de courage. Nous on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous, mais c'est simplement nourrir les gens. Hein. La question, elle est juste nourrir les gens. C'est ça.
Du coup, vous êtes 4 pour l'instant ?
On est 4 un peu plus, il y a Fred qui va venir. Fred,
vous êtes combien ?
Je veux dire, les 7 ou 8. Hein.
7, voilà, vous êtes presque une dizaine. Près d'une dizaine. Vous appelez d'autres...
D'autres agriculteurs, quoi. Si éventuellement il y en a qui veulent se mettre avec nous, il n'y a pas de problème, non, pas tout le monde. Il n'y a pas de sectarisme. Hein. On est ouvert à tout. Hein.
Comment ils vous contactent ?
Bah, ils contactent les Sabronais, hein, ils savent ce qu'on fait. Hein. On est dehors tous les jours. Hein. Nous, on n'est pas dans les bureaux, assis sur des matelas en plastique.
Mais on va aller assez loin, là, sur le territoire, peut-être que... Mais
ils ont qu'à nous contacter, c'est tout. On fait un comité, on fait une réunion publique.
Est-ce qu'il y a un mail ou quelque chose comme ça ?
Oui, on a des mails, là. Chacun on a des mails, et voilà, quoi.
Est-ce qu'on peut rappeler... on peut donner un mail ou pas ?
Une réponse donnée à ça, je sais pas.
Est-ce que vous êtes ouvert à ce que des gens vous rejoignent
oui.
Ou...
Oui.
Totalement, c'est une volonté,
moi,
quand même.
Je peux donner ma boîte mail, hein, s'il faut...
Vous voulez réfléchir un peu et me...
Ah non, mais c'est pas y a pas de problème. Après, c'est plus facile d'arriver à voir localement ce qu'on veut faire, parce que peut-être que derrière la haie, il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas trop qui serait intéressé par ce projet-là. Là, peut-être qu'il va écouter la radio, on espère, et qu'il va dire « Ah, mais oui, bon, c'est pas loin, je fais déjà quelque chose, je veux produire, j'ai un carré de terre, j'ai accès à l'eau, voyons comment faire pour produire de la nourriture, quoi. »
Voilà. Là, forcément, là, ils vous connaîtraient, les personnes...
Oui, tout à fait. Moi, Thierry Hercier, je suis à Saint-Pargoire. Il y en a certains qui me connaissent en bien ou en mal. Guillaume, son moulin commence à tourner depuis quelques années. Jean-Paul, on n'en parle pas. C'est un jeune homme, mais il commence à être connu dans les garrigues. Et François aussi. Donc, on n'est pas caché dans les bois. Voilà, c'est pas une secte, c'est pas non plus un syndicat, c'est pas une annexe à la Chambre d'agriculture, non, c'est, voilà, c'est un collectif, ça garde ce côté informel. Et peut-être que moi, dans mon village, il y a des collègues qui sont en monoculture vigne et qui se posent aussi la même question, mais qui font comme les voisins. Donc,
même dans la plaine de Poussin, il y a un gars qui m'a rendu service plusieurs fois, qui est Viti, coopérateur à la Domitienne, à Condensec. Hein. Et donc on est voisins de champs et on a souvent discuté. Lui aimerait se diversifier, mais comment faire puisque il est empêché par le modèle. Donc c'est vrai que peut-être que en prenant son exemple à lui, il faut qu'il chemine et si un jour il est prêt, il saura me trouver puisqu'on est voisins de parcelle. Après ouais, François, il a son stand la moitié de l'année à Frescali en bord de Veine ici, à la limite Poussin-Balaruc. Jean-Paul. C'est le chaman des Garrigues au-dessus d'Issanka. On sait où nous trouver. Et c'est vrai que c'est peut-être la meilleure réponse, c'est ça. C'est, si vous voulez nous trouver, vous saurez où nous trouver. Moi, je suis sur les paniers de taux plusieurs fois par mois, à Poussin ou Montbazin. Oui. Donc s'il y en a un qui est mûr, il vient et puis on avisera.
Okay. Bon, et pour les autres, ils contacteront la radio et je vous passerai le relais. Très bien. Ah ben, merci beaucoup.